Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut, c'est Kevin et vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Alors déjà pour commencer, je voudrais remercier une nouvelle fois Melvin pour son magnifique intérim. Il nous a fait passer des super émissions et je le remercierai jamais assez de m'avoir remplacé pendant ses vacances. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière le club de l'ES Raché qui avait... J'avais déjà reçu Gilbert Dupuis, président adjoint, qui était venu m'expliquer un petit peu le projet du club il y a maintenant quelques mois, puisque c'était en février dernier. Il revient aujourd'hui avec Robin Trani, secrétaire général du club et premier salarié de l'histoire de l'ES Raché. Il est également éducateur des U18 en Ligue. Mais avant de commencer notre interview, nous allons bien évidemment démarrer par les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
RKS, l'esprit grenoblois.
Alors au niveau des infos, on a notamment l'équipe de Bourgoin qui ramène un nul contre le match des Hauts-Lyonnais. Donc il y a effectivement eu 2-2 et l'actualité effectivement de cette semaine, c'est le premier tour de Coupe de France avec des très belles affiches. On aura notamment Pontcharrat qui recevra Cessin, l'équipe de Mathieu Ciancy. On a également le Versou qui recevra le FC Vallée de la Grèce, club qu'on connaît bien ici. On a également Sud-Isère qui recevra Ebain. Un très beau derby aussi entre Fontaine et Sassenage. Et on va en parler justement avec nos deux invités du jour, Rive qui recevra l'ES Raché. Sans transition, j'accueille du coup mes deux invités du jour, Robin Trani et Gilbert Dupuis. Bonjour messieurs.
Salut Kevin.
Salut Kevin.
Je suis très heureux de vous recevoir ici dans cette émission. Donc Gilbert, toi tu connais très bien l'émission parce que tu étais venu déjà une fois. Robin, du coup, tu ne connais pas cette émission.
C'est sa première radio, mais il est vraiment, il a été préparé, il est au top.
Bon, je me doute bien que tu l'as briefé, Gilbert, je te connais un petit peu. Robin, moi j'aimerais bien d'abord qu'on parle un petit peu de toi pour commencer, parce que Gilbert s'était déjà présenté quand il était venu. Alors dis-nous un petit peu quel est ton parcours dans le football. Donc, j'ai notamment aussi dit que tu étais du coup secrétaire général du club, premier salarié de l'histoire du club. Mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quel est ton parcours dans le football.
Donc moi j'ai commencé à l'âge débutant, tout petit, à la Bajatière.
Ouais.
Donc c'est mon club de quartier où j'ai commencé à toucher les premiers ballons. Je suis resté jusqu'au collège là-bas.
Ouais.
Donc on a eu des super coachs, c'est un club vraiment bien encadré par Nabil. Ouais. Et qui est encore en place d'ailleurs actuellement. Ensuite j'ai voulu progresser dans ma petite carrière de footballeur. Et je suis parti faire un sport-études à Cessiné.
D'accord.
Donc sur mes années collège, où je jouais en Ligue, en U15, en U13 et par la suite.
Ouais, c'est bien quand même, t'as joué à un niveau qui est sympa.
Ouais, c'était sympa. En plus, on avait un bon formateur, Sébastien Joseph, qui est maintenant coach des féminines, je crois, en Ligue 2.
Ouais.
Donc c'était vraiment une bonne période.
Ouais.
Arrivé au lycée, j'ai eu un petit surplus de foot.
Ouais.
Donc j'ai fait une petite pause.
D'accord.
Voilà, il y avait l'école.
Ça, t'étais un petit peu en saturation.
Exactement, ouais.
D'accord,
donc,
ok.
Peut-être l'âge aussi.
T'avais quel âge ?
C'était les époques lycées, donc 16, 17, 18 ans.
Ouais, tu vois, je me rends compte en fait que cette période-là, elle est peut-être charnière chez les jeunes, parce que moi, je suis éducateur aussi des U17, donc tu vois, ça correspond à peu près à l'âge.
Où et ça ?
À la Baie de la Grèce.
Ah, d'accord, donc tu affronteras... Nos 17 ans, premier match officiel.
Eh ben oui, exactement. et du coup, effectivement, on a on a un problème aussi avec ces générations-là. Enfin, c'est pas une génération, mais en tout cas à cet âge-là, il y en a beaucoup qui se posent la question. J'arrête, je continue, je fais autre chose. Et notamment la période Covid. Je sais pas pour vous, mais nous a pas du tout aidé à ce niveau-là parce qu'il y a eu tellement une coupure pendant autant de temps que faire revenir les jeunes. À l'entraînement, les remobiliser dans un nouveau projet. En plus, il y en a qui ont changé de catégorie entre-temps, donc qui étaient un peu dans l'inconnu. C'était pas forcément facile. Bon, au final, on a quand même limité les départs. Mais c'est vrai que pour le coup, ce que tu me racontes fait un petit peu écho à ce que moi j'ai vécu maintenant. Et c'est vrai que souvent, on se pose la question. Bon, c'est vrai, après, il y en a qui reviennent après cette petite pause. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas évident.
Surtout à cet âge-là, des fois, il y a d'autres priorités, que ce soit l'école ou les soirées ou quoi que ce soit.
Les copines.
On connaît. Donc,
on en parle, une petite parenthèse sur les copines. Non, compliqué aussi, c'est vrai, le retour Covid, qui est encore toujours présent.
Bien sûr.
C'est vrai que ce début de saison, il est compliqué, on ne sait pas trop où on va. Et voilà, on pourra t'en dire deux mots. Hein,
oui, mais on va en parler justement parce que j'ai besoin de votre avis, notamment en tant qu'éducateur et membre du bureau du club. Comment vous allez appliquer ces mesures qui ont évolué aussi, c'est un peu flou.
Et qui ça sont en train de se mettre en place d'ailleurs, puisque tout n'est pas complètement défini au niveau de la mairie, donc on attend aussi beaucoup d'infos.
On va en parler, je voudrais qu'on termine du coup avec Robin. Donc du coup, tu arrêtes le foot pendant une petite période parce que tu satures.
J'ai épuisé les 3 secondes première terminale.
D'accord.
Voilà. Et après l'obtention de mon bac, je dois m'inscrire à la fac.
Oui.
J'étais quand même encore attiré par le sport, du coup je m'inscris à la fac de sport et je me rends compte qu'il faut absolument retrouver un club par rapport à Staps, tu dois être dans un club. Donc je me mets à la recherche d'un club, j'avais arrêté quand même depuis 3-4 ans et donc j'observe qu'il y a le Rachet qui a 3 équipes, une en régionale, une en district et une équipe 3 plutôt loisirs. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne opportunité pour reprendre là-bas et du coup en 2011 j'arrive là-bas. Et ça fait 9 ans que j'y suis.
Ah, c'est beau. Voilà. Parce que tu es jeune. Hein. On a le même âge, tu me l'as dit avant de commencer l'émission. Tu
vois. 9 ans de SR, c'est beau.
C'est beau. Non, franchement, c'est propre.
Je suis arrivé en U20, en fait.
D'accord.
Première année senior. Et j'ai connu les 3 équipes seniors dans ce club.
Oui.
L'équipe 1, 2 et 3. Et puis maintenant, on n'a que 2 équipes.
Oui.
Et depuis l'année dernière, vraiment, je me suis consacré à mon poste de salarié et d'éducateur.
D'accord, ok. Mais quand tu fais STAPS, c'est pour obtenir quel type de diplôme?
Je sortais du bac, je ne savais pas trop, comme beaucoup d'entre nous. Je me suis lancé là-dedans parce que c'était une fac de sport, ça me permettait de retoucher ça. Et puis c'est ce qui au final m'a amené, je n'ai pas fini STAPS, mais c'est ce qui m'a amené au final à être éducateur sportif. En fait.
D'accord, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, et du coup, depuis 9 ans maintenant, à l'ES Rachet. Et du coup, secrétaire général du club, du coup, explique-nous un petit peu comment c'est arrivé au final.
Alors en fait, l'année dernière, on a eu un changement de bureau. Moi, ça faisait un moment que même en étant juste bénévole et éducateur, j'étais bien impliqué dans le club.
Oui.
Que ce soit pour les tournois, les stages, même les autres catégories, aider dès que j'avais l'opportunité, on va dire, tout en ayant un boulot à côté qui me nourrissait.
Oui.
Et avec mon cousin, on a cherché un peu sur Internet des subventions, des aides.
D'accord.
Et on s'est aperçu qu'il y avait une aide à la création d'un emploi CDI.
D'accord.
Voilà, qui pouvait énormément aider le club financièrement.
D'accord.
Et avec le nouveau bureau, j'ai présenté mon projet et qui a été accepté en fait.
D'accord.
On a fait un budget prévisionnel, on a vu qu'on pouvait rentrer dans les clous si j'étais à 100% arraché avec du temps en plus du coup pour faire d'autres tâches.
Oui.
Et ce qui fait que depuis septembre 2019, la subvention a été accordée en ayant fait un gros dossier avec mon cousin qui nous a énormément aidé.
Ton cousin qui est dans le club ?
Non, on l'a fait rentrer dans le club, mais c'est quelqu'un qui adore le foot et qui aide, qui est calé administrativement, on va dire.
D'accord, ok.
Et du coup, maintenant, il est impliqué, mais il est sur Lyon, il nous aide comme il peut. Et du coup, depuis septembre 2019, avec l'obtention de la subvention, on a réussi à créer un poste en fait, qui est 50% administration, 50% éducateur sportif.
D'accord, ok.
Donc mes tâches sont réparties là-dessus.
Et donc, et quelles sont tes missions justement ?
Donc pour ce qui est 50% administratif, c'est la gestion des mails, des plannings, des relations avec les coachs, bureaux, tout ce qui est dans l'administration, des tournois, les stages, organisation de l'auto avec le bureau, vraiment tout ça. Les relations avec les mairies qui est avec mon vice-président, on gère les mails. Voilà. Et puis après 50% éducateur sportif. L'année dernière, j'étais sur les U6, U7 et sur mes U18.
D'accord.
Et cette année, je serai sur les U18 Ligue et sur les U13 aussi.
D'accord, ok.
Donc, c'est un bon boulot. Ouais.
Non, franchement, c'est...
Ouais, on est plutôt très, très fiers du travail de Robin sur cette année.
Oui.
On a accepté ce projet, effectivement, parce que c'était une année où on ne savait pas trop où on allait parce que... d'un point de vue de l'organisation, c'était une équipe complètement nouvelle.
Oui.
Donc il y avait un deuxième challenge à relever qui était un salarié à plein temps.
Oui.
Et franchement, ça a été vraiment providentiel parce que c'est vraiment Robin qui nous permet aujourd'hui d'envisager de faire passer le club un peu dans une autre dimension parce qu'un salarié à plein temps aujourd'hui, c'est quasi impératif pour envisager... des projets beaucoup plus importants pour le club. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est présent avec, dans le club avec énormément d'actions. Et aujourd'hui, il est non seulement vital, mais, il est devenu incontournable.
D'accord, ok. Oh, bah, c'est beau compliment, ça, ouais, Romain. Ouais.
Là, je m'entends très bien avec le bureau. Oui. Qui, c'est vrai qu'il avait pris le risque, dès leur première année, de prendre un salarié, ce qui est quand même pas facile.
Oui.
Certes, il y a une aide financière qui est conséquente, mais il y avait quand même un gros boulot à faire administrativement.
Mm-hmm.
Et ça a été une belle réussite sur cette année, malgré le Covid.
Oui.
Mais on espère que là, sur l'année 2020-2021, on va énormément progresser puisqu'on a un état des lieux de l'année dernière avec des chiffres et on peut que s'améliorer en fait.
D'accord, ok. Et tu concentres du coup 100% de ton temps au club.
Ouais, même 150, je dirais.
Mais on n'a rien, ça rien.
Bah, c'est comme ça. Le club, c'est...
Le foot, ça reste ma passion, donc oui. Presque on compte pas les heures, mais oui... J'ai quand même du repos quand.
Ouais, bah il faut bien quand même. Ouais.
Ça reste chronophage, mais, ouais. Mais bon, c'est vrai, quand on a mis la main dedans.
C'est sûr.
C'est compliqué.
Puis on a vraiment une belle équipe, que ce soit le bureau, les éducateurs ou même les joueurs. Moi, je passe des bons moments. Enfin, je ne me serais pas engagé là-dedans si je savais que c'était compliqué avec le bureau ou d'accord. Avec les éducateurs. Ça a été accepté de tout le monde et c'est plutôt positif. Ouais.
D'accord, ok. Et donc tu fais 9 ans du coup, là, ouais. Depuis 9 ans à l'ESRH, qu'est-ce qui a fait que tu es resté aussi longtemps? Et je ne sais pas, des fois on a peut-être la tentation d'aller peut-être ailleurs, on est peut-être démarché aussi par d'autres clubs pour prendre des responsabilités ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté fidèle?
C'est vrai que j'ai eu la possibilité, il y a eu des appels ou quoi que ce soit, mais moi je préfère, j'étais dans l'idée où je préfère améliorer les choses où je suis plutôt qu'aller voir ailleurs si c'est mieux.
Mm.
C'est vrai que, comme je disais, que ce soit avec Jamel ou maintenant avec Thierry, qui était le président, je m'entendais très bien. Les joueurs étaient présents, on avait une bonne ambiance de travail, on est assez libre tout en ayant des objectifs. Franchement, c'est un plaisir de travailler là-bas et j'avais pas en fait envie de partir, que ce soit ailleurs ou pour d'autres opportunités.
D'accord.
Quand on se sent bien un endroit, après. On a plutôt envie de le faire progresser, on va dire.
D'accord, oui.
Moi, c'était mon objectif.
Oui, mais c'est en tout cas une des belles paroles pleines de sagesse. Je voulais terminer là-dessus. Est-ce que tu as des diplômes, du coup?
Donc, je suppose que oui. J'ai passé mon CFF1, CFF2, CFF3 dans l'ordre.
Ouais.
Et cette année, je me suis inscrit sur le BMF.
D'accord.
Donc, avec le Covid, il y a pas mal de retard. Là, on a reçu un mail hier comme quoi ils étaient en train de prendre les choses en main. Mais que ce soit cette année ou l'année prochaine, je compte valider mon BMF.
D'accord, ok. À ce qui paraît, ce n'est pas un diplôme quand même qui est super facile.
Non, c'est compliqué parce que c'est sur toute une année. Il y a du travail à l'ordinateur en faisant des séances. Ça veut dire qu'il faut tout retranscrire.
Puis observer aussi, je crois.
Observer par un tuteur. C'est un gros boulot d'un an.
Ouais.
Il faut avoir le temps. La dernière fois que je m'étais engagé là-dedans, je n'avais pas eu assez de temps donc, de le finir.
Ouais.
Parce que je travaillais à côté, je n'étais pas encore salarié. Maintenant, en étant salarié, je pense avoir les capacités et le temps de faire le nécessaire, en tout cas.
Ouais. D'accord. On ne le dit pas assez, Gilbert, c'est le club quand même qui finance les formations de ce type-là.
Exactement, oui. Ouais. Donc, le financement, donc le budget global. Et on est toujours dans cette contrainte. Là, on a fait les comptes en fin d'année. Donc, on termine positivement malgré le fait qu'on est Robin à plein temps.
Super.
Et il faut poursuivre là-dedans parce que pour tirer le club vers le haut, il faut évidemment que les éducateurs soient diplômés pour apporter de la qualité, un savoir-faire et puis de la crédibilité surtout auprès de tous les licenciés qui viennent rejoindre le club.
Surtout jusqu'au CFF3 qui est dispensé par le district, je trouve qu'ils sont vachement utiles et ça apprend, les formations sont intéressantes. Oui,
non mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant on va repasser un petit peu sur le club, donc toi Gilbert tu étais venu nous voir pour nous présenter un peu le club, tu nous
Pour le racheter, il n'y en a pas tellement eu,
d'accord.
Finalement.
Ouais.
On termine avec des résultats sportifs. Tu pourras interroger Romain d'ailleurs sur sa catégorie.
Oui.
Il a tiré vers le haut cette année. Donc,
c'est vrai, on n'en a pas parlé. Mais...
C'est lui qui va évoquer ce parcours et ce qu'il a fait. Donc, c'est une vraie fierté aussi pour le club. D'un point de vue sportif, c'est vrai que on avait pour objectif, notamment en ce qui concerne l'équipe première, de passer de R3 en R2.
D'accord.
Et écoute, ça ne s'est pas fait. Et on est arrivé, malgré un premier début de saison qui était compliqué, sur lequel on était entraîné en fin de tableau.
Ouais.
On est remonté. Excellent début de saison, enfin en tout cas après la trêve, excellente reprise du club, où ils sont allés gagner à Lyon, ils ont fait vraiment, vraiment d'excellents résultats. Ça nous a permis de remonter dans le top 5 du classement. Et au final, comme la saison s'est arrêtée brutalement, au moins, on a été maintenu. Et cet effectif-là, qui normalement avait vocation d'aller plus loin, a pu quand même maintenir son niveau en R3, ce qui est en tout cas plutôt une bonne nouvelle.
D'accord, ok. Ouais, mais c'est voilà. Vrai. Puis du coup,
d'un point de vue sportif, on n'a pas vraiment eu à se plaindre. Ça a été compliqué à gérer, notamment avec les parents, avec les gens qui, potentiellement, certains, là, on est dans les coulisses un peu de off du club, où les gens, certains qui ont aussi eu des difficultés financières, ont cherché à éventuellement récupérer une partie
de la licence.
De la licence, voilà des choses un petit peu compliquées comme ça à gérer. Bon, ça, c'est la vie du club. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça a été plutôt... On s'en sort plutôt très, très bien. Et voilà.
Bon, tant mieux.
Voilà, on va essayer de démarrer cette année avec un peu de flou, malgré tout.
Oui.
Mais en tout cas, avec de nouvelles bases, un nouveau départ, déjà une première année référence.
Oui.
Et c'est ça qui est très, très important pour nous.
D'accord. Alors, avant d'en parler, du coup, on va parler justement de ton exploit,
Ouais. Il a écrasé le championnat. Hein. C'est pas un exploit. C'est... Il a rien laissé. Hein.
Il a rien laissé.
Ouais.
Alors, raconte-nous un petit peu cette saison, Robin. Avec les U18.
Pour parler de cette saison, il faut rapidement parler de la saison d'avant, en fait, où déjà on était dans les U17. On avait terminé 3e, mais juste derrière Bourgoin et Saint-Marcelin, on aurait dû ou pu monter aussi à ce moment-là. Et du coup, l'année d'après, ça a engendré un groupe U18 qui était la suite de ce groupe U17, du coup, avec des renforts de joueurs qui revenaient un peu au rachet, qui étaient allés à droite, à gauche, essayer dans des bons clubs au bon niveau. Et du coup, j'avais une équipe vachement compétitive qui se connaissait très bien, solide dans tous les compartiments. Et c'est vrai que, j'ai pas envie de dire avec n'importe quel éducateur, il serait monté, mais je les connaissais bien. Mais il y avait la qualité dans les joueurs. Et c'est vrai qu'en U18-D1, on a eu beaucoup de résultats positifs. On a fait juste un match nul, c'était à l'extérieur sur un terrain en herbe assez compliqué. Mais sinon, que des victoires. Et avec ce Covid, on termine premier, mais il y avait deux poules de D1 cette année-là. Il fallait faire un match de barrage normalement contre l'île d'Abo. Puis au final, ça ne s'est pas fait. Ils ont pris le meilleur premier suivant plein de critères. Et puis ça a été nous.
Bon, bah, c'est super.
C'est un beau travail de la part de tout le groupe et de la part du club. Après, c'est vrai qu'on a un petit goût quand même d'inachevé parce qu'on monte avec des règles un peu...
Oui.
Adapté, quoi. Mais on prend quand même et c'est agréable.
Je pense que ça ôte pas le mérite. Après, oui, je comprends qu'on a envie de finir le travail quand même. Mais ça enlève pas le mérite parce que les deux tiers de la saison, tu es premier et qu'en plus tu es sélectionné comme meilleur premier, je pense qu'il peut difficilement y avoir plus contestable. Il n'y a pas de contestation à avoir. Quoi.
Surtout qu'on avait fait tous les matchs aller après. Ça reste agréable quand même, mais on n'a pas fêté ça comme on aurait pu fêter ça dernier match.
C'est vrai.
C'était effectivement un groupe très très fort. Ils nous ont énormément donné de plaisir au bord du terrain. Il y a une vraie fierté à venir les voir jouer et à dominer leur match. Techniquement, c'était excellent et puis un vrai collectif.
Ouais.
Et maintenant, on attend la suite parce que
du coup, on est tombé dans une belle poule de ligue.
Exactement.
R2. Avec des équipes de Lyon, de Échirolles et Manival qui feront deux beaux derbies, Bourgoin.
Oui.
Donc
un peu de lourd, c'est bien.
Ouais, c'est bien. Il faut.
Il faut. Ouais.
Hein,
Moi, j'avais jamais coaché en ligue, malgré 9 ans depuis que j'ai eu Rochers, parce qu'on n'a pas d'équipe ligue à part les seniors. Mm-hmm. Donc c'est un plaisir. Ouais.
Mais c'est positif, parce que pour maintenir les seniors à un niveau ligue, il faut avoir des bonnes générations derrière, parce que si tu prends toujours des joueurs de l'extérieur, c'est quand même compliqué à maintenir. Puis c'est quand même tellement plus agréable de travailler avec des jeunes du cru que tu as formés avec les valeurs du club, plutôt que d'aller chercher des gens de l'extérieur qui ne vont pas forcément s'adapter tout de suite ou qui s'adapteront peut-être jamais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est extrêmement positif. C'est quoi le secret, sans vouloir te piquer tes astuces, hein, Robin.
Mais, attention, révèle pas tout. Parce que...
C'est quoi le secret aujourd'hui pour réussir dans une catégorie d'ici? Parce que c'est vrai que ça peut être, tu l'as dit, en plus ça a été le travail de passionnement d'une saison, mais de la saison d'avant. Là, cette année, du coup, il y a une autre saison qui démarre, ouais, et avec un groupe relevé. C'est jamais facile de travailler avec des catégories de jeunes parce que ton effectif, il change tous les ans ou tous les deux ans. Tu te retrouves à recréer quelque chose. Comment ça marche? C'est quoi le secret?
Moi, j'ai l'impression que pour ces catégories-là, surtout jusqu'à U18, il faut être proche des joueurs, mm-hmm, voilà, sans être leur ami, mais être... un grand frère, un tonton, mm-hmm, sur quelqu'un sur qui ils peuvent compter, on va dire.
Oui.
Bien sûr, proposer des séances de qualité avec du jeu, avec des exercices pour les faire progresser, ça c'est évident. Mais vraiment créer une relation avec eux pour qu'ils puissent te respecter, mm-hmm, mais en même temps se donner à fond pour toi, on va dire, mm-hmm, et pour le club. Mm-hmm. Moi, c'est là-dessus que je vois mon travail. Je me considère, et avec la plupart des coachs du Rachet, comme... éducateur et pas entraîneur ou coach. Mmh. On est vraiment, mmh, des éducateurs. Nous, on veut faire progresser les jeunes, que ça soit humainement ou footballistiquement.
Oui.
Et donc, moi, avec le peu d'expérience que j'ai pour l'instant, je vois que ça marche bien et qu'il y a un bon retour des jeunes. Ils me le rendent, en fait, sur le terrain.
Bien sûr. Mmh.
Donc, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je pense qu'il y a de la réussite, en tout cas, à niveau départemental ou ligue, sur des clubs assez familiales.
D'accord.
Là-dessus, comme ça marche. Après, quand on a des joueurs type OGF 38 ou Lyon Olympique Lyonnais, je ne sais pas s'il faut coacher de la même manière.
Mais oui, bien sûr.
Pour tous nos clubs de département ou même jusqu'à R2, c'est comme ça que je vois notre travail, en tout cas d'éducateur, oui. Et jusqu'à U18. Après, d'accord, à partir du 20 senior, ça commence à devenir des adultes, oui, c'est un peu différent.
Oui, l'approche doit être adaptée.
Je ne l'ai pas connu, mais en ayant vu un peu ces catégories-là... Faut avoir une approche différente.
Oui, pense. Bien sûr.
Ouais, du coup, c'est une vraie chance pour les U13 qui est en train de coacher aujourd'hui.
Oui.
Je vois qu'il a à peu près les mêmes méthodes de travail. Mm-hmm. Hein, il est appliqué, il est concentré, il est, mm-hmm, consciencieux. Il veille à ce que chacun soit attentif, mm-hmm, à ce qu'il dit. Donc il commence par ça, c'est, mm-hmm, aussi c'est ça le travail d'éducateur, c'est de dire bon voilà, moi je suis là pour vous donner de mon temps,
oui,
et faites en sorte que le temps que je vous consacre, on l'optimise et que vous en tirez profit.
Mm-hmm.
Voilà,
par contre il faut savoir donner de la voix à certains moments, c'est-à-dire avoir une certaine prestance, sûr, ou un charisme. Et puis moi aussi je pense qu'il m'a pas mal aidé, surtout sur les premières années, c'est que j'étais joueur de l'équipe 1. Donc footballistiquement parlant, j'étais plutôt à l'aise. Même des fois avec mes 17 ou mes 18, ça m'arrive de m'entraîner avec eux.
Mm-hmm.
Donc il y a aussi un respect du footballeur.
Ça t'a donné une crédibilité.
Voilà. Oui, une crédibilité. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a mis en confiance en fait vis-à-vis des jeunes.
D'accord.
Ce qui est un plus, on va dire. C'est pas obligé, c'est pas du tout obligatoire, c'est un plus pour moi.
Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Gilbert.
Ouais, c'est moi.
Allez.
Je me suis pas endormi. Hein,
tu t'es fort. Donc, moi, j'aimerais, du coup, maintenant qu'on parle de qu'est-ce qui a changé pour les clubs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont en interne dans les clubs voient un petit peu ce qui a changé par rapport au Covid et à l'approche, justement, le respect des gestes barrières, etc. Moi, j'aimerais que tu expliques pour ceux justement qui ne pratiquent pas, qui pratiquent plus ou qui sont extérieurs au club aujourd'hui, quelles sont les règles à respecter, qu'est-ce qu'on vous demande, vous, en tant que club, pour respecter les gestes barrières, les règles sanitaires.
Alors écoute, bon, ça va être assez rapide ce sujet à te répondre. Dans la mesure où on attend encore beaucoup d'infos qui doivent arriver de la mairie de Meylan. On est un peu dans le flou aujourd'hui, donc on essaye de faire respecter un certain nombre de choses quand il y a de la proximité avec les gens, que les gens puissent avoir des masques. Mais en fait, dans l'enceinte du stade, étant donné qu'on n'a pas, nous, des fonctions de policiers municipaux et qu'il n'y a pas vraiment de règles établies, précises, indiquées, il n'y a pas de décrets, entre guillemets, presque municipaux sur le sujet, c'est un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est que de toutes les manières, on n'a pas accès dans l'immédiat à nos vestiaires. Ils vont être probablement réouverts très prochainement. Donc nos nouveaux vestiaires qui sont qui n'ont pas franchement été utilisés. Donc changement au bord du terrain.
Ou soit les joueurs aujourd'hui viennent en tenue, soit ils se changent au bord du terrain. Pour l'instant, il fait chaud, c'est pas très gênant, mais quand l'hiver va arriver, on va avoir un problème, je pense.
Donc aujourd'hui, c'est changement au bord du terrain. On essaye de faire garder des distances de sécurité avec notamment la partie publique. Et malheureusement, on n'est pas aidé dans l'immédiat parce que on n'a pas comme je te l'ai dit, de décrets municipaux, et notamment la mairie n'a pas posté d'affiches particulières avec des règles à faire respecter.
C'est vrai.
Donc on essaye de faire la police un petit peu aux abords du terrain. Mais si tu veux, tu peux être face à des populations qui sont compréhensibles et puis d'autres qui le sont moins. Et c'est en fait pas tellement notre cas aujourd'hui de jouer ce rôle-là. Donc c'est vrai que si on a des panneaux qui vont arriver prochainement, je pense que ça ira mieux parce qu'on leur dira il y a des consignes à respecter.
Et parce que c'est vrai que la Ligue a communiqué quand même un petit peu, mais laisse quand même beaucoup la main aux mairies.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire que moi, vous m'arrêtez si je me trompe, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. On a dit effectivement que la Ligue dit que les vestiaires peuvent être réouverts avec l'accord de la mairie.
C'est ça.
Voilà. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que toute personne qui rentre dans l'enceinte du stade doit être masquée.
Dans la logique maintenant.
Dans la logique maintenant. Oui, c'est atterri il n'y a pas longtemps, cette histoire.
Surtout pour ceux qui veulent regarder le match sur la main courante ou les entraîneurs.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc les parents qui peuvent accompagner effectivement les jeunes jusqu'à l'entraînement et qui restent des fois assister aux entraînements. On est d'accord que les joueurs ne courent pas encore avec un masque.
Non.
En espérant que ça n'arrive jamais.
Mais au niveau des groupes non plus, il n'y a pas de restriction de nombre de mémoire.
Après, nous, on essaye sur le terrain de faire des groupes un peu plus restreints avec les coachs, mais on n'a pas eu de consigne particulière là-dessus.
D'accord, ok. Et c'est pas, je vais sans vouloir non plus rentrer dans la polémique, mais moi je m'interroge quand même. Je me dis, on met plein de gestes barrières, on demande à mettre des masques, à respecter des distances de sécurité, ce qui peut être cohérent.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, je me pose la question. Je suis joueur de foot, je rentre dans l'enceinte du terrain masqué, je respecte des distances de sécurité d'un mètre. 10 minutes après, je suis sur le terrain avec mes coéquipiers. Et on le sait, le football, c'est un sport de contact. On ne peut pas respecter des distances de 1 mètre. On n'a pas de masque. On peut des fois être très proche de l'autre joueur. On peut le toucher parce qu'on est au marquage ou j'en sais rien. Est-ce que ça ne pose pas un problème de cohérence, tout ça? Bon, il n'y en a pas que dans le foot, du problème de cohérence avec cette approche de gestes
barrières.
Non,
c'est clair. Après, les limites, elles sont celles-là. Après, ce qu'on va considérer, je pense, par rapport à ce que toi, tu dis, c'est le fait que cette personne-là, dans l'enceinte du stade... Alors, elle, la concernant, puisque finalement, les masques qu'on porte, c'est pour pas contaminer les autres.
Oui.
Donc déjà, si aux abords du terrain, tu vas avoir des familles, des personnes âgées, des parents, etc. Donc, la proximité avec ces gens-là, elle se fera avec des masques. Ensuite, les jeunes sur le terrain, qu'on sait, entre guillemets, moins fragiles de ce point de vue-là, probablement que, comme au niveau des écoles, il y a des estimations qui sont dites. Maintenant, pour aller dans ton sens, mais pour contrer un petit peu ça, la proximité dans le football, elle existe, mais il va y avoir un vrai problème, et c'est pas l'émission. Ça va être dans tous les sports de contact, et on pense notamment au rugby, où ils sont, notamment dans les mêlées, puis ils sont déjà collés les uns aux autres.
C'est encore plus du contact.
Ça va être compliqué, mais
Moi, je suis d'accord avec toi, Kevin. Franchement, qu'on accepte les matchs amicaux, les sports de, enfin même les entraînements, et qu'on mette plein de gestes à côté, comprends pas trop. Soit on arrête tout, soit on accepte que les gens viennent normalement. Mais ouais. Après, oui, qu'on s'adapte. Eux aussi, ils sont en train de s'adapter. Donc, on verra bien.
C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, dans certains endroits, notamment dans le centre-ville de Grenoble, on doit porter un masque. Par contre, dès qu'on s'assoit dans une table pour manger, on l'enlève, quoi. Même pas pour, forcément que pour manger, pour boire un coup. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ce virus ne touche que les gens debout. Les gens assis ne sont pas contaminés. Et quand on court sur le terrain, on risque de ne pas le toucher, de ne pas l'avoir.
Donc, moi, je dis de faire attention comme au maximum qu'on puisse. Et puis après,
voilà.
S'adaptera. Mmh.
Exactement. Bon, en tout cas, en espérant effectivement que la Ligue et les mairies statuent sur tout ça et qu'on puisse effectivement...
On attend des infos, nous, rapidement.
Toujours pratiquer. C'est déjà une bonne nouvelle de pouvoir pratiquer du foot.
Oui,
c'est sûr hein, qu'on préfère le pratiquer plutôt que de rester à la maison comme on l'a été. Mais effectivement, il faut à la fois trouver la... J'ai l'impression qu'on tâtonne, en fait. On cherche le bon juste milieu entre...
Le bon curseur.
Entre pratique et en même temps respect des gestes barrières. Donc, on verra effectivement...
En fait, c'est pratique et